vos manettes. Quittez la vie réelle pour plonger dans un monde de pixels. Cordialement Geek, la chronique high-tech et jeux vidéo avec Loli sur Neptune FM.
Bien le bonsoir, bienvenue sur Neptune FM pour cette nouvelle émission de Cordialement Geek. Cette semaine, je vais vous parler du jeu The Legend of Zelda Echoes of Wyndham. On parlera ensuite des tops des ventes de jeux vidéo de la semaine dernière, d'une news concernant la PS5 Pro. On aura ensuite une news technologie avec l'impact environnemental d'une seule requête ChatGPT qui est hallucinant. Et on finira avec les deux petites sorties jeux vidéo de la semaine. On commence donc avec la première partie de cette émission et le test de The Legend of Zelda Echoes of Wyndham. Donc c'est un jeu d'action-aventure et de plateforme qui est jouable en solo. Il a été réalisé par Tomomi Sano et Satoshi Terada, produit par Eiji Aonuma, développé par Nintendo EPD et Crezzo, et édité et distribué par Nintendo. Donc il s'agit du 21e jeu de la franchise The Legend of Zelda. Il a été dévoilé lors du Nintendo Direct du 18 juin 2024 et il est sorti le 26 septembre 2024 sur Nintendo Switch. Dans cette aventure inédite, ce n'est plus Link qui devra sauver la princesse Zelda. Avec The Legend of Zelda Echoes of Wyndham, les rôles s'inversent. Grâce au pouvoir du sceptre de Tri, la princesse d'Hyrule s'en va secourir son royaume, ravagé par de nombreuses et étranges failles. A l'aide de ce bâton, elle pourra créer des objets à volonté du moment qu'elle a pu récupérer leurs échos et matérialiser des ennemis selon le même principe pour l'aider à triompher des combats les plus ardus. Le jeu est classé PEGI 7 et il obtient une note de 17 sur 20 de la part de jeuxvideo.com pour une note globale de 86 sur 100 sur Metacritic. Donc en juin 2024, Nintendo surprend son monde en présentant pour la première fois un jeu The Legend of Zelda ayant pour personnage principal la princesse Zelda. Une première depuis 1986 et les débuts de la saga. Le titre s'appelle Echoes of Wyndham et il est prévu sur Nintendo Switch le 26 septembre 2024. Lors de sa présentation, il interpelle. Les joueurs de longue date de Zelda reconnaissent un univers qui évoque avant tout les premiers jeux, mais dans un second temps, ce sont ceux qui sont attachés à la licence avec Breath of the Wild et Tears of the Kingdom qui s'exclament. Ce nouveau titre semble tiré de son interface et sa proposition de gameplay permissif de ces deux mastodontes de la console hybride. Et Echoes of Wyndham arrive à prouver que ces deux mondes, l'ancien et le moderne, peuvent tout à fait cohabiter. Donc il a fallu attendre 38 ans pour pouvoir enfin jouer la princesse qui donne son nom à une saga de jeux vidéo légendaire. En effet, Zelda n'a jamais été le protagoniste de sa propre histoire. The Legend of Zelda Echoes of Wyndham vient rectifier ce qui pouvait être perçu par certains comme un non-sens absolu. Quelque chose que l'on doit probablement à Tomomi Sano, la co-réalisatrice avec Satoshi Terada du studio Crezzo, de ce nouvel opus et surtout la première femme à réaliser un jeu de la série. On change donc de personnage principal, mais ce Echoes of Wyndham reste un jeu The Legend of Zelda à part entière. Quelque chose que l'on constate rapidement par le scénario. De grandes failles violettes déchirent Hyrule, engloutissant villages et habitants sur son passage. Dans un dernier élan de courage, Link sauve Zelda, mais ne parvient pas lui-même à échapper au néant qui l'attire. C'est donc à la princesse de trouver un moyen pour sauver le héros d'Hyrule, mais aussi tout le royaume. Donc la trame principale est toute tracée et elle évolue peu. Sa narration affiche une structure très linéaire et laisse peu de place à la surprise. C'est un déroulé identique dans le sens où l'on devra toujours faire la même chose, à savoir fermer les failles, mais qui laisse place à un sentiment de liberté. Echoes of Wyndham est divisé en deux grandes parties qui n'imposent rien aux joueurs en termes de suivi, quelque chose qui se goupille à merveille avec le gameplay de ce Echoes of Wyndham. Au niveau de l'histoire et de l'écriture du jeu, Echoes of Wyndham se rapproche plus des précédents jeux de la saga qui ont été développés sur console portable. La trame scénaristique sert alors juste de toile de fond à, il faut le reconnaître, une proposition de gameplay inédite pour la saga. C'est exactement ce que fait ce dernier opus et, après un Tears of the Kingdom à la narration intime, on regrette que l'histoire soit aussi peu prenante. C'est dommage, d'autant plus que l'univers établi ici jouit d'une écriture soignée, à défaut d'être magistrale, que l'on trouve à travers plusieurs histoires souvent prenantes, au ton toujours différent. On comprend néanmoins le choix de Nintendo de moins s'investir dans l'histoire de ce Echoes of Wyndham. Il a vocation à être plus accessible que Breath of the Wild et Tears of the Kingdom, et en ce sens, il arrive très bien à le faire par son histoire et son écriture. C'est aussi tout l'univers du jeu qui accueille à bras ouverts les nouveaux venus sans pour autant oublier les premiers joueurs de la licence. Donc il y a quelques jours, une New Zelda a fait les gros titres. Nintendo a officialisé le fait que Breath of the Wild et Tears of the Kingdom étaient dans une réalité alternative aux jeux précédents de la saga. Nintendo doit avoir ses raisons, et l'une d'elles, c'est que ça lui permet probablement de se libérer niveau créativité. Quelque chose qui se voit dans Echoes of Wisdom, avec un festival de référence aux anciens jeux Zelda. Donc il y a du Breath of the Wild, mais aussi du Ocarina of Time, du Majora's Mask, du A Link to the Past. Impossible de toutes les lister, mais on s'exclame à plusieurs reprises en reconnaissant de quel opus telle ou telle chose est tirée. Echoes of Wisdom reste toutefois dans la lignée de l'intégralité des jeux Zelda de la série principale. Ils constituent tous des portes d'entrée à la licence et peuvent s'apprécier chacun individuellement. Nintendo ne lésine pas et se diversifie tant sur le fond que sur la forme. Outre les différents biomes à explorer entre déserts, volcans et forêts tropicales, c'est au niveau des histoires racontées qu'on ressent de la variété. Il n'y a donc jamais ce sentiment de déjà-vu. Par exemple, on découvre l'histoire comique des pestes Mojo dans une forêt au climat tropical. Elles sont devenues complètement addictes aux fils d'araignée. De l'autre côté de la carte, la région enneigée n'abrite qu'un Yeti solitaire découragé par le départ de son frère. Des histoires qui n'ont rien à voir entre elles, mais qui font chacune leur petit effet. Voilà, on va faire une petite pause dans ce test. On va s'écouter une musique extraite de l'OST du jeu The Legend of Zelda Echoes of Wisdom. C'est le thème de Ganon et on reviendra juste après pour la deuxième partie de ce test. Donc c'était la musique du thème de Ganon, extraite de l'OST du jeu The Legend of Zelda Echoes of Wisdom. On va continuer avec la deuxième partie de ce test. Donc l'univers d'Hyrule, grâce à sa richesse, constitue l'un des moteurs qui pousse le joueur à continuer son aventure avec curiosité. D'autant que, bien sûr, la variété des environnements sert aussi l'essentiel de Echoes of Wisdom, à savoir son gameplay. Dès le début de son aventure, Zelda cherche tant bien que mal à s'extirper d'une faille à deux doigts de l'engloutir. Elle y arrive, mais se retrouve dans la foulée jetée en prison. C'est alors que Tri, une espèce de créature lumineuse, lui vient en aide. Il lui forge un sceptre spécial qui permet à son porteur de mémoriser puis d'invoquer les échos de ce qui l'entoure. Pour s'échapper de sa geôle, la princesse doit alors se servir de table, de lit et d'autres plantes à décorer. Au fur et à mesure de son aventure, elle mémorisera d'autres échos utiles à la résolution d'énigmes, à l'exploration ou encore au combat. Il y en a 125 à mémoriser et quasiment tous peuvent être utilisés à un moment ou à un autre. C'est au joueur de faire sa propre tambouille, sa construction sur mesure à chaque situation donnée. Cette proposition de gameplay se ressent sur trois grands axes dans le jeu, donc l'exploration, les énigmes et le combat. Pour chacun d'eux, il est possible d'y aller à sa sauce. On a déjà pu le voir dans les bandes-annonces diffusées sur le jeu. Pour l'exploration par exemple, il existe de multitudes de manières d'aller en haut d'un arbre, comme faire une colonne d'eau, synchroniser ses mouvements avec une araignée, ou encore faire une espèce d'escalier en colimaçon avec des vieux lits. De façon évidente, les combats sont aussi des moyens d'exprimer sa créativité, puisque chaque ennemi dispose de points forts et de points faibles. Finalement, plus que par la liberté qu'il promet, Echoes of Wisdom est grisant par les restrictions qu'il impose aux joueurs, qui doivent chercher l'une des bonnes manières de faire. De fait, c'est surtout en cherchant ce qu'ont voulu nous faire faire les développeurs que l'on prend le plus de plaisir. C'est un énorme jeu à puzzle dont cette dimension casse-tête est magistralement dissimulée par l'exploration et l'aventure proposée. Et c'est dans la manière dont Echoes of Wisdom arrive à suggérer aux joueurs d'expérimenter qu'il brille. Donc je l'ai déjà évoqué, mais rien que par sa trame narrative, le jeu peut proposer des expériences différentes. À trois reprises, on va devoir choisir un endroit où aller pour continuer la quête principale. Ces choix-là ont forcément une influence puisqu'ils déterminent l'ordre dans lequel vous allez mémoriser vos échos. Deux joueurs qui décident de suivre des routes différentes n'auront donc pas la même expérience. Il faut faire avec ce que l'on a et c'est aussi de cette façon que l'on expérimente. Le monde d'Hyrule a été construit comme un grand bac à sable avec une savante alternance des activités. Donc sans revenir sur toutes, d'autant que la partie liée à l'exploration est là pour ça, ce sont les donjons majeurs qui transmettent le mieux cette philosophie. Chacun est situé dans un environnement différent et dispose de ses propres échos. C'est avec cela qu'on sera souvent le plus efficace dans ces bâtiments, construits de la même manière que ceux des premiers jeux Zelda. Il faut y récupérer des petites clés, affronter ennemis et mini-boss avant d'aller vaincre le geôlier de l'endroit. Une construction à l'ancienne donc, mais qui marche terriblement bien avec ce gameplay moderne, basé autour de la réflexion et de la liberté du joueur. Donc il y avait toutefois quelques appréhensions avant la sortie du jeu, surtout autour de la forme d'épéiste que récupère Zelda au bout de sa première heure d'aventure, dont on avait peur que la puissance prenne le dessus sur la mécanique principale. Il faut dire qu'elle permet de vaincre les monstres bien plus facilement. Mais son utilisation reste limitée par une jauge d'énergie ainsi que par le cadre du jeu, qui ne l'exige pas à longueur de temps. En plus de ça, et c'est ce qui prouve que Zelda Echoes of Wisdom est aussi un bon jeu, c'est que l'utilisation de la forme d'épéiste reste moins satisfaisante que l'utilisation variée des échos. Surtout lorsque l'on trouve des combinaisons adéquates pour tel combat ou telle énigme. Une sensation que l'on cherche et que l'on trouve pas seulement à travers l'histoire. Comme la majorité des jeux Zelda, Echoes of Wisdom encourage le joueur à explorer. À la manière d'un jeu Pokémon, on prospecte chaque région à la recherche de l'écho rare, mais pas seulement. Il y a de nombreux collectibles à récupérer, triplant voire quadruplant la durée de vie du jeu. Une activité annexe qui n'est pas du tout répétitive, on est même surpris de voir à quel point c'est naturel de passer Hyrule au peigne fin en quête d'un fragment de cœur ou d'une station de tamponnage. Tout ce contenu facultatif permet à Nintendo et à Grezzo de donner des champs d'expérimentation supplémentaires à l'utilisation des échos, à travers des quêtes secondaires, des mini-donjons, des boss ou des grottes à explorer. Il récompense en plus le joueur en lui offrant la plupart du temps des récompenses à la hauteur de son investissement. C'est par exemple en réalisant des quêtes secondaires et en explorant un minimum que Zelda peut obtenir des accessoires, de l'équipement octroyant des compétences passives à ne pas négliger. Une exploration d'autant plus gratifiante qu'elle peut parfois montrer comment le monde d'Hyrule peut interagir de lui-même, interaction que l'on peut reproduire ensuite de notre côté. Ces différentes activités ne sont donc que facultatives par leur nature indépendante de l'histoire, elles ne sont pas le fer de lance de Zelda Echoes of Wisdom, mais constituent bien la pointe de l'épée en servant à 100% la philosophie du gameplay proposé par Nintendo. En témoigne l'alternance contenu secondaire et quête principale imposée par le titre, puisque certaines activités et quêtes ne se débloquent qu'à différents moments de l'aventure. Donc avant sa sortie, Echoes of Wisdom affichait tout de même deux ombres au tableau, la première étant un problème lié à l'ergonomie du titre. La navigation pour choisir ses échos à invoquer était fastidieuse. On passait parfois plus de temps à choisir son écho qu'à l'utiliser en combat ou pour une énigme. Un inconfort qui a disparu après quelques heures de jeu, où l'on apprend à naviguer entre le menu déroulant et la grille de collection. Toutefois, on regrette aujourd'hui l'imprécision ponctuelle de l'invocation d'écho, ainsi que les limites du système de verrouillage en combat, celui-ci ne permettant pas de basculer d'un ennemi à un autre. En outre, The Legend of Zelda Echoes of Wisdom n'affichait pas une technique exemplaire avec des ralentissements ponctuels du jeu. Ces derniers sont toujours présents et, comme dit, n'handicapent ni ne tirent vers le bas l'expérience globale du titre. Cela compense avec la direction artistique pensée pour cet opus, une esthétique pleine de couleurs et de lumière plus que compatible avec un jeu réfléchi pour être accessible, sans pression et propice à la créativité. Et c'est d'autant plus vrai que sur le modèle OLED de la Switch. Donc pour résumer, les points forts du jeu, on a un gameplay sur mesure, la variété de l'univers dans la forme et le fond, un contenu annexe diversifié et très bien pensé, une exploration libre et naturelle, un jeu qui convient aux amateurs de longue date comme aux nouveaux venus, et enfin une version sur OLED qui est sublime. Pour les points faibles, on a les approximations dans les invocations d'écho et le système de verrouillage, la narration linéaire et anecdotique, et enfin des boss qui manquent de challenge. Voilà, du coup, pour terminer ce test, on va pouvoir s'écouter tout de suite une autre musique extraite de l'OST du jeu The Legend of Zelda Echoes of Wisdom. On va s'écouter tout de suite le thème principal du jeu et on revient juste après. C'était la musique du thème principal de l'OST du jeu The Legend of Zelda Echoes of Wisdom. On va faire une petite pause publicité et on reviendra juste après pour parler des tops des ventes de jeux vidéo de la semaine dernière, du news jeux vidéo, du news technologie et on finira avec les sorties de la semaine. À tout à l'heure.
Vos manettes, quittez la vie réelle pour plonger dans un monde de pixels. Cordialement Geek, la chronique high-tech et jeux vidéo avec Loli sur Neptune FM.
Rebonsoir, re-bienvenue sur Neptune FM pour la deuxième partie de l'émission Cordialement Geek. On va tout de suite commencer avec le top des ventes de jeux vidéo de la semaine dernière. Donc le top 5 qui fait aussi top PlayStation 5. On a en 5ème place Test Drive Unlimited Solar Crown sur PS5, un jeu de Nacon. En 4ème place, c'est Star Wars Outlaws sur PS5, un jeu d'Ubisoft. En 3ème place, c'est NBA 2K25 sur PS5, un jeu de 2K Games. En 2ème place, on a Astrobot sur PS5, un jeu de Sony Interactive Entertainment. Et en 1ère place, c'est Warhammer 40 000 Space Marine 2 sur PS5, un jeu de Focus Entertainment. Le top 3 pour la Nintendo Switch, on a en 3ème place Luigi's Mansion 2 HD. En 2ème place, c'est Super Mario Bros. Wonder. Et en 1ère place, Mario Kart 8 Deluxe. Pour la Xbox Series, on a en 3ème place Test Drive Unlimited Solar Crown. En 2ème place, c'est Star Wars Outlaws. Et en 1ère place, Warhammer 40 000 Space Marine 2. Le top 3 pour la PS4, on a en 3ème place Red Dead Redemption 2. En 1ère place, GTA 5 l'édition Premium. Et en 1ère place, NBA 2K25. Pour la Xbox One, on a en 3ème place GTA V l'édition Premium, en 2ème place The Crew Motorfest et en 1ère place Hogwarts Legacy. Le dernier top, c'est le top 3 PC avec en 3ème place Microsoft Flight Simulator Premium l'édition Deluxe, en 2ème place c'est Test Drive Unlimited Solar Crown et en 1ère place Minecraft Java and Bedrock l'édition Collection Deluxe. On passe maintenant à la news jeux vidéo, donc on va parler de la PS5 Pro. Elle coûte un bras, mais est-ce qu'elle a de quoi retourner le cerveau des joueurs ? La PS5 Pro s'est laissée approcher par une partie de la presse spécialisée et les premiers retours sont assez enthousiasmants, même s'il y a encore des interrogations. Donc plusieurs médias américains et britanniques, tels que The Verge, IGN ou encore Digital Foundry, ont pu se rendre au siège de PlayStation US près de San Francisco afin de voir de plus près la fameuse PS5 Pro ainsi que 11 jeux tournant dessus. Sony tente de justifier le prix de 800€ sans lecteur optique intégré par des titres first party comme third party plus beaux et plus fluides. Néanmoins, comme le notent les sites précédemment cités, toutes les améliorations graphiques ne sont pas égales. Si les journalistes présents reconnaissent qu'il faut avoir le nez collé à l'écran pour remarquer certains détails plus poussés, l'impression générale est bonne. Donc oui, les jeux sont bel et bien plus impressionnants sur PS5 Pro. C'est comme si des lunettes sales étaient enlevées de mes yeux, écrit The Verge, qui reconnaît avoir publié la même phrase à l'époque de la PS4 Pro. Le site ajoute avoir quelques réserves à cause des centaines de dollars à débourser pour voir des résultats époustouflants, seulement si l'on se tient à quelques centimètres de l'écran 4K. De l'avis général, cette PS5 Pro s'adresse avant tout à celles et ceux qui jouent en mode performance et qui auront droit à la même fluidité, mais cette fois-ci avec des graphismes à tomber à la renverse. Sans surprise, le ray tracing géré en 4K 60 fps avec le curseur poussé au maximum fait son petit effet sur les jeux de course tels que F1 24 et Gran Turismo 7. Néanmoins, le mode performance pro, censé allier le meilleur des deux mondes, donc les graphismes et la fluidité, grâce à la puissance de la PS5 Pro, engendre tout de même quelques sacrifices pour respecter les promesses de résolution et de fluidité. C'est le cas de Marvel Spider-Man 2 ou encore de Ratchet & Clank Rift Apart, qui élude certains détails afin d'être toujours plus beau sans passer sous la barre des 60 fps. De l'aveu de tous, c'est Final Fantasy VII Rebirth qui remporte la palme du jeu le plus impressionnant techniquement sur PS5 Pro. Tout y est décrit comme magnifique, du rendu des paysages aux mèches de cheveux de Cloud. C'est absolument incroyable, renchérit IGN. En ce qui concerne les autres jeux, Demon's Souls et Dragon's Dogma 2 n'atteignent pas toujours le 60 fps dans les zones les plus chargées, mais bénéficient d'améliorations notables. Hogwarts Legacy, l'héritage de Poudlard, de son côté, dispose de trois modes PS5 Pro. Le plus impressionnant graphiquement, à savoir fidélité plus ray tracing, ne tourne qu'en 30 fps pour le moment. A l'instar d'autres softs, Horizon Forbidden West compte sur le PSSR pour afficher de la 4K, alors que la résolution interne oscille autour des 1440p. Ceci étant dit, d'après les spécialistes qui ont pu l'essayer, tout est plus net et détaillé qu'avant. The Crew Motorfest bénéficie d'un upscale 4K 60fps qui augmente le confort visuel, à l'instar de The Last of Us Part 2 Remastered qui affiche du 4K 60fps grâce au PSSR. Comme vous l'avez sûrement remarqué, la technologie d'upscaling de Sony est mise à contribution afin d'éviter d'afficher de la 4K native. IGN se dit particulièrement impressionné par ce que peut faire le PSSR à l'écran, en donnant l'impression qu'aucun compromis n'est fait. Donc si jamais cela vous tente, sachez que la PS5 Pro sortira le 7 novembre 2024 prochain, donc, et qu'elle sera disponible, attention, au prix de 800€. Voilà, on passe maintenant à la news technologie. Donc selon une nouvelle étude, l'impact environnemental d'une seule et même requête ChatGPT est absolument impressionnante. Cette nouvelle étude a été réalisée par le Washington Post aux côtés de Shaolei Ren, chercheur à l'Université de Californie à Riverside. Selon eux, une seule requête ChatGPT équivaut à environ une bouteille d'eau pleine et à suffisamment d'énergie pour allumer 14 ampoules LED durant une heure. Ce bilan environnemental est stupéfiant, notamment lorsque nous le multiplions par le nombre d'utilisateurs à travers le monde. Donc si un Américain sur 10 utilise ChatGPT une fois par semaine pour écrire un mail sur une période d'un an, ChatGPT consommerait 435 millions de litres d'eau et 121 517 MWh d'électricité, a donc expliqué le chercheur. Cela correspond à toute l'eau consommée par chaque foyer de Rhode Island pendant un jour et demi et à suffisamment d'électricité pour éclairer tous les foyers de Washington DC pendant 20 jours. ChatGPT consomme autant d'eau puisque les centres de données d'intelligence artificielle émettent des tonnes de chaleur lors de l'exécution des calculs. Afin de refroidir ces installations, elles ont besoin d'une grande quantité d'eau. Dans les lieux où l'électricité est bon marché ou où l'eau est rare, les centres de données d'intelligence artificielle utilisent l'électricité pour faire fonctionner des climatiseurs afin de faire refroidir les serveurs. Voilà, donc comme ça vous donne un peu à réfléchir sur peut-être l'utilisation de ChatGPT. On va maintenant finir l'émission avec les deux petites sorties jeux vidéo de la semaine qui sont sorties aujourd'hui, vendredi 27 septembre. On a donc eu Reignatis sur PC, PS5 et Nintendo Switch et également EA Sports FC 25 qui est disponible dès maintenant sur PC, PS5 et Xbox Series.
Cordialement Geek, la chronique high-tech et jeux vidéo sur Neptune FM.
Donc voilà, c'est ce qui termine l'émission de Cordialement Geek de cette semaine. Je rappelle que vous pouvez me retrouver sur Facebook pour l'émission Cordialement Geek, mais aussi pour mon autre émission Asian Bubble que vous pourrez retrouver lundi prochain de 21h à 22h sur Neptune. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end et à tchéfette.
Retrouvez Cordialement Geek chaque vendredi à 18h30 avec Loli sur Neptune FM. À retrouver en podcast sur neptunefm.com.